Le thème de cette soirée, c'est la découverte des rouleaux de la mer morte. En 1948, en réalité 1947, pour une chance, on a trouvé des rouleaux à 6 km de la mer morte. Ils étaient dans une grotte. On a commencé à faire des recherches. On a trouvé 11 grottes avec ces documents-là. Étaient des documents dans des jars. On a trouvé en tout presque 1000 documents. Aujourd'hui, j'ai lu dans un site internet, quand j'ai fait la recherche la première fois, il y avait maximum 930 manuscrits en rouleau, plus 15 000 fragments petits. Maintenant, ils sont déjà presque 1000. Et parmi ces anciens documents qui sont du 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a 244, je l'ai ici, 244 textes bibliques, livres de la Bible. Pas toute la Bible dans un seul texte. Un seul texte, il y a le Pentateuque, mais ce n'est pas lisible parce que c'est complètement abîmé. Alors il y a Genèse, Lévitique, Exode, Lévitique, etc. Après, il y a plus de 600 documents qui sont des textes que les enseignants qui vivaient dans cette. Et la présence d'autres documents est du même intérêt que les textes bibliques. Quand on pense là, oh, la Bible, oui, c'est vrai, la Bible a reçu une confirmation exceptionnelle, mais encore plus, c'est ce qu'ils ont écrit, les documents qu'ils ont écrits, qui nous donnent quelque chose en plus par rapport à la Bible encore. La première soirée, on a parlé de ça. La deuxième soirée, on a vu cette découverte dans le cadre des grandes découvertes archéologiques. À partir des découvertes très anciennes, des documents très anciens comme la pierre de Rosetta, vous avez entendu parler de la pierre de Rosetta, des documents trouvés par Rawlinson, Iran, toute autre découverte archéologique comme archéologique des documents écrits, archéologique des villes, archéologie des tablettes, des poteries, archéologie comme celle de Qumran. Hier soir, on a étudié un autre sujet, comment les documents trouvés à Qumran donnent support à la Bible. Mais pas seulement comme réalité du texte biblique, mais comme âge du texte biblique. Et le thème le plus important qui aujourd'hui a été désormais mis dans tous les textes d'introduction à la Bible, c'est que les rouleaux de la Bible qu'on a trouvés sont des rouleaux en hébreu et en araméen qui ne sont pas du temps de l'existence de cette communauté qui a existé depuis le 2000, 2003, 2005 jusqu'au 64. L'année 64, cette communauté a été complètement éliminée par l'armée romaine. La vue en parallèle entre les textes qu'ils ont écrits, et ils ont écrit des textes dans le langage de leur temps, et les textes bibliques qu'ils ont copiés montrent la date, la période où les textes bibliques remontent. Parce que quand on lit les textes bibliques et on a pris comme étude spécifique le livre de Daniel, le livre de Daniel a été écrit en hébreu et en araméen. Il y a les chapitres 1, 8, 9, 10, 11 et 12 en hébreu, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en araméen. L'araméen et l'hébreu du livre de Daniel, ce n'est pas l'araméen et l'hébreu des temps de la communauté, c'est l'araméen du 6e siècle. Alors, comme on applique cela sous le livre de Daniel, on peut le voir pour tous les livres de la Bible. Il y a un texte du livre de Samuel qu'il semble soit environ du 700-800 avant Jésus-Christ. Alors ça nous donne, cette découverte donne une contribution extraordinaire à la date de provenance de la Bible. Vous savez que même aujourd'hui, j'ai lu dans un site internet qu'il y a encore des savants qui disent que le livre de Moïse, le Pentateuque, a été écrit par Esdras, Esdras de la Bible. Il n'a pas seulement écrit son livre, il a écrit aussi le Pentateuque. Donc, le Pentateuque, le livre de Moïse, serait du 5e siècle. Nous croyons que Moïse a écrit le Pentateuque. Alors, cette découverte nous donne une contribution exceptionnelle sur la date des livres de la Bible et la Genèse. Il y a des textes de la Genèse qui sont bien plus anciens que le temps d'Exodus. Ça, on l'a vu hier soir. Ce soir, je vais voir avec vous ces deux thèmes. On va faire un court voyage à Qumran. Demain soir, on va avoir quelque chose d'autre, mais on étudie ce soir quelque chose par rapport à la vision prophétique qu'avaient les Esséniens. Comment ils comprenaient le futur de l'histoire. Alors, on commence à voir quelques images. Voilà la colocation du site Kirbet Qumran, où il y avait cette communauté. Ici, il y a encore quelque chose qui les situe encore mieux. C'est la partie nord de la mer Morte. C'est à plus ou moins 60 km de Jérusalem. Jérusalem, c'est 900 mètres. La mer Morte est 300 mètres sous le niveau de la mer. Donc, il y a un décalage de plus de 1000 mètres. Ça, c'est la vue. On voit la mer là, au fond, et vous voyez qu'il y a, ici on le voit un peu mieux, et maintenant on va voir le positionnement des grottes. Les grottes étaient surtout dans cette... C'est terrible, Massada. C'est très beau à voir, et il y a une histoire terrible là. Voilà une autre photo très importante. Quand on a fait les excavations et on a mis à la lumière les monastères, on n'a pas fait des excavations sur cette place-là qui est plus ou moins 600-700 mètres du site des monastères. Et là, on a découvert, vous voyez, on arrive bien à distinguer, mais c'est un cimetière où il y a eu des ensevelissements de plusieurs périodes. Et c'est difficile les colloquer toujours, même si dans les restes humains, on peut faire l'examen du carbone 14. Donc, pas une date précise au mois. Il y a toujours un décalage de 200-250 années. Donc, ce n'est pas possible avec le carbone 14 sur les restes biologiques. Mais on a trouvé des tombeaux avec des femmes. On a trouvé quelques restes d'enfants. Et la plupart des hommes. Ça c'était les monastères. On va voir maintenant dans ces monastères quelque chose d'important. Et ça c'est ce qu'il y a maintenant. Quand on a commencé les excavations, on voyait seulement des pierres. Il avance tout seul. Ça c'est ce qu'il y a maintenant après les excavations. Ça c'est une reconstruction. L'image en haut à droite, c'est hypothétique, on ne peut pas le dire. Mais quelqu'un a pensé que ce serait dans cette façon-là. Ça, c'est un peu plus réel, mais c'est toujours une reconstruction. Et avec cela, je vais vous montrer combien c'était riche. Vous voyez là, c'était des bassins d'eau. Les bassins d'eau... c'est très étrange voir tellement d'eau au milieu du désert. Et ce n'est pas un désert avec des arbres, comme le désert de la Judée. C'est totalement désert, désert, désert. Mais ils ont eu la capacité d'avoir toujours de l'eau. Et ils n'avaient même pas un système de filtrage de l'eau de la mer Morte. Pourquoi tellement d'eau ? Avec des canalisations vraiment, vraiment faites d'une façon, un système hydrique exceptionnel. L'eau, pour eux, c'était essentiel pour faire l'encre, parce qu'ils faisaient l'encre eux-mêmes pour l'alimentation, mais surtout pour les bains rituels. Et ici, on a une possible. Non, ce n'est pas possible. Pour les bains rituels. Et ici, il y a, vous voyez, le tremblement a eu lieu le 31 avant Jésus-Christ. Dans cet autre, il y a quelque chose de plus visible. Comment c'était? Alors, il y avait deux escaliers. On descendait d'un côté et montait de l'autre. Et on restait avec l'eau qui couvrait complètement pendant quelques secondes. Mais il fallait le faire et certains le faisaient 3 fois par jour. Avant les repas, il y avait toujours l'ablution des purifications. Une autre chose intéressante pour l'eau, ça c'est la canalisation qu'ils ont fait pour l'eau. Ça signifie qu'il y avait de l'eau qui courait certains temps seulement, mais il y avait beaucoup d'eau, ils avaient beaucoup d'eau. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez ici, on voit encore mieux combien de systèmes d'eau il y avait. Et peut-être cela, c'était le réservoir le principal. Et voilà, ça, c'est les monastères. Il y avait la possibilité d'héberger plus ou moins 300 personnes. Ça signifie qu'il y avait des personnes qui étaient stables et des personnes qui étaient là pendant quelques années. C'était une sorte de monastère pour retraite spirituelle. Mais là, on travaillait. On travaillait, on priait beaucoup, on chantait. Et le travail fondamental qu'ils avaient, c'était la production des textes. Alors, les textes sont dans cette condition-là. Ça, c'est un beau texte. C'est bien conservé. Mais il y en a d'autres qui sont pires. Vous voyez, c'est très facile de les casser. Ce sont des textes de 2000-2200 années. Ce n'est pas quelque chose de frais. Mais la plupart des textes qu'on a trouvés, des rouleaux comme ça, on a trouvé presque 950, 900. Aujourd'hui, j'ai lu 980. Il y en a plus. Mais la plupart sont des textes comme ça. Ce sont des fragments. On a trouvé de cela plus de 15 000. Et vous voyez, ça, c'est un test intéressant parce que c'est un test de la grotte numéro 4 et c'est un test du Lévitique. Là, c'est d'autres textes, des fragments. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un texte de Daniel 9 sur les 70 semaines. Ça, c'est un texte de Job. Ça, il parle d'anges. Là, on parle des anges. Et il y a. Tout de suite, il y a eu ceux qui pensent qu'il y avait des contacts avec les extraterrestres. Il parle d'anges, donc. Et ça, c'est un test de la règle de la guerre. Il y avait beaucoup de règles de comment vivre ensemble, comment maintenir l'eau propre, comment faire du bon pain. Il y a aussi des recettes pour faire le pain. Il y a un livre qui a été publié. Les aliments au temps de Qumran. Tous les documents qu'on a trouvés étaient ou dans ces jarres-là, ou les jarres étaient comme celle-ci, on voit bien qu'elle était, on l'a récomposée, ou étaient tout éparpillés dans les grottes où il y avait les jarres. Malheureusement, pendant longtemps, peut-être pendant 18 siècles, quelqu'un avait déjà visité et n'ont pas eu la sagesse de conserver les documents. Et seulement ceux qui sont restés dans la grotte numéro 4, c'était la grotte la plus difficile à entrer. C'est pour cela que les documents, la majorité des documents sont restés. Mais dans d'autres grottes, il y a seulement des pièces très petits qui sont restés là. Maintenant, on va avoir quelque chose par rapport à la compréhension qu'ils avaient de la prophétie. Hier soir, on a étudié le livre de Daniel par rapport à Qumran et je vais relire une déclaration qu'on a lue hier soir. Daniel, avec la première d'Enoch, le livre de Jubilé n'a pas seulement été trouvé en plusieurs exemplaires, mais et a aussi exercé une influence significative sur la littérature de la secte en général. Aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau document qu'on va aller voir demain soir. Un document, c'est un rouleau, la vision de Daniel. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé la traduction, et je dois le lire maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Et nous pouvons, conclut Van der Kamp, sans hésitation, affirmer que la forte tension apocalyptique de ce mouvement vient de ces prophètes. Donc, Daniel a été, le livre de Daniel a été inspirateur pour la vision prophétique qu'ils avaient. Et, de nouveau, je vais vous faire voir quelque chose. Ici sont les grottes où on a trouvé les matériels sur Daniel. La grotte numéro 1 et la grotte numéro 10, on a trouvé les matériels les mieux conservés. Mais on a trouvé seulement les matériels conservés, parce que l'autre était tout abîmé. Ce qu'on a trouvé dans les jarres était bien conservé. C'est dans la grotte numéro 1 qu'on a trouvé le rouleau d'Isaïe, le bien connu rouleau d'Isaïe. La plupart du matériel, c'est dans la grotte numéro 4, c'est celle-ci. Et cette grotte, et le monastère était par là. Donc c'était tout près des grottes ici. Cela nous donne la possibilité de faire cette conclusion. Dès qu'ils ont su que les Romains étaient en train d'arriver, ils ont commencé à mettre les choses dedans les jarres et les mettre dans les différentes caves. Mais évidemment, c'est l'hypothèse d'un archéologue que j'ai connu à Palermo, les Romains sont arrivés plus vite qu'ils avaient pensé. Et quand ils étaient à quelques 50, 60 kilomètres, ils ont mis tous les matériels qu'ils ont pu dans cette grotte-là, qui était tout près. C'est pour cela, même pour l'ampleur qu'il y a dans cette grotte, parce que les autres sont très petites, il y a des grottes qu'on ne peut pas marcher debout, il faut aller. Tandis dans cette grotte-là, vous voyez comme elle est haute, comme elle est bien haute là. On va voir un texte très important qui, on va voir comment ils avaient compris la vision prophétique. Ce n'est pas un long texte, mais c'est tellement, tellement intéressant. Gary Cromachy, il fait cette considération. Étudiant l'attente eschatologique de la communauté, on réalise qu'ils avaient compris le fait que quatre royaumes devaient dominer l'histoire du monde. Ça, c'est important. Et regardez les textes, les commentaires qu'on a trouvés. Et j'espère que dans les documents que j'ai découvert ce soir avant de venir ici, il y a quelque chose en plus. Alors, une explication d'introduction. Là où il y a les parenthèses comme ça, vous comprenez pourquoi? Parce qu'il manque le texte. C'était abîmé. Et on ne sait pas, dans certains cas, on ne sait pas combien de textes il manque. Dans la plupart des cas, il y a un trou, on peut imaginer. Mais dans d'autres cas, ce sont des textes un à côté de l'autre, et on ne sait pas s'il y avait au milieu d'autres bien plus. Alors, regardez comme ils ont compris le livre de Daniel. La lumière du matin rose et quatre arbres, un arbre s'éleva, là il manque quelque chose, un arbre s'éleva et ils partirent loin de lui et il m'a dit ce genre d'arbre qu'il était. Et je lui ai dit, si je pouvais le voir et le comprendre, je vis que l'arbre qui a été solide. J'ai demandé son nom, il répondit Babylone. Qu'est-ce que vous fait penser le fait qui utilise le mot arbre, le chapitre 4, où Nabucodonosor il vient décrit avec le symbole d'un arbre. Mais ici, il parle de quatre arbres. Ça signifie que aussi les autres, pour les autres, appliquent le même symbole. Le deuxième, et j'ai vu un autre arbre, vous suivez, et lui a dit, es-tu qui
qui a le gouvernement de la Perse, les deux marbres. Puis le troisième marbre, et il me dit, quel est ton nom? Et je lui ai dit, tu es celui qui a les forces gouvernementales de la mer et du port. Et c'était, à ce temps-là, une description de la Grèce. La Grèce, c'était un empire pour lequel ils utilisaient beaucoup la mer, les bateaux. C'était une péninsule. Après, le document n'est plus là. Vous voyez, ça termine avec l'interruption. Quatre arbres, quatre royaumes, l'histoire du monde. Leur interprétation de la prophétie, leur interprétation du temps. Et voilà que alors, si nous allons au livre de Daniel, nous avons la claire explication. Le chapitre 2, il y a quatre métals et il décrit, il y a quatre royaumes. Et dans le chapitre 7, c'est bien clair, les quatre animaux sont quatre royaumes qui domineront sur la terre. C'est notre compréhension qui vient depuis 2000 ans, 2200 années, un peu moins. Ce texte, pour moi, quand j'ai fait cette conférence à d'autres, après je vais étudier la prophétie de Daniel 2, mais avec vous, ce n'est pas le cas. Vous la connaissez tous, Daniel 2. Mais la chose importante, c'est considérer maintenant un peu, maintenant la prophétie, notre étude, le contenu de notre étude pratiquement termine là ce soir. Mais je vais faire une considération un peu plus ciblée pour les quatre royaumes que nous connaissons dans l'histoire. Alors, Babylone a commencé et a terminé. 605, 607, 539. Ça, c'est la période de l'Empire babylonien. La Médo-Perse, un peu plus longue. 539, 331. Presque 200 années. La Grèce, un peu plus courte. 331, 167 ou 169, ça dépend, quelqu'un dit 167, d'autres disent 169. Après, il y a la quatrième bête. Pour nous, c'est Babylone, Médopèse, Grèce et Rome. Est-ce que c'est clair pour tout le monde qui sont ces quatre empires et pas d'autres? Si quelqu'un pose une question, et vous pose la question, mais pourquoi la quatrième, c'est Rome? Je veux vous montrer pourquoi ces quatre royaumes sont Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. C'est un historien, professeur d'histoire ancienne à l'Université Baptiste du Texas. Hier soir, j'ai fait voir d'autres savants. Alors, maintenant, je vais vous faire voir comment j'explique que ces quatre royaumes sont Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Plusieurs interprétations. Pourquoi ne pas... Alors, nous avons... je pars directement du chapitre 7, qui est le parallèle Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Nous les mettons avec l'or, l'argent, le bronze et le fer. Les quatre bêtes... Les lions, l'ours, le léopard et la quatrième bête qui n'est pas explicable. Il y a plusieurs interprétations pour cette vision-là, même pour la petite corne, surtout pour la petite corne et pour les dix cornes. Alors, les quatre interprétations, la première c'est celle-ci, c'est surtout catholique. Catholique, quelques savants protestants. La première, c'est Babylone. Babylone, c'est égal pour tous. Il n'y a pas d'exception. La Média, deuxième bête. La Perse, la troisième. La Grèce, la quatrième. Avec les dix cornes qui sont les diadoques. Vous savez qui sont les diadoques? sont les quatre généraux d'Alexandre qui, à la mort d'Alexandre, ils se sont divisés les royaumes, l'empire grec. Pourquoi est la petite corne, c'est Antiochus Épiphane. Ça, c'est accepté. Antiochus Épiphane, c'est presque tout le monde, sauf nous. Ça, c'est la compréhension la plus étendue. Tout le monde, presque, comprend comme ça. Mais pourquoi on ne peut pas aller? Ici, le problème, c'est simple. Le problème, c'est que dans cette compréhension, la Médo-Perse est divisée en Mède et Perse. Mais, soit historiquement, soit dans le livre de Daniel, Mède et Perse sont un unique royaume. Il y a aussi les dithons qui ont dit, est-ce que c'est la loi des Mèdes et des Persans? Mais dans la réalité, l'histoire, c'est celle-là. A commencé avec la Mède, mais après la Mède et la Perse sont devenus un unique empire, et il y avait presque une alternance entre les empereurs, les rois Mèdes et Persans, pour arriver aux Persans qui étaient toujours eux. Et pour Daniel, en trois occasions, met ensemble la Mède et la Perse. Au chapitre 5, quand il y a l'histoire de Belshazzar avec la main qui écrit « Ton royaume t'est enlevé et sera donné aux Mèdes et aux Persans ». Au chapitre 8, il y a deux animaux et pas trois, et pas quatre, il y a un bouc, un bélier, et il dit, le premier, c'est le royaume des Mèdes, de la Mède et de la Perse, et le deuxième, c'est la Grèce. Il n'y a pas division entre Mèdes et Persiens. Et Daniel répète la même chose au chapitre 11, au commencement du chapitre 11. Mais l'histoire, c'est celle-ci. Donc, cette interprétation ne peut pas... La deuxième interprétation répète plus ou moins la même conclusion, avec une différence. Babylone, c'est le premier, Mède et Perse, c'est le deuxième, la Grèce, c'est le troisième, la quatrième bête sont les diadoques, et les quatre généraux d'Alexandre le Grand seraient la quatrième bête. Pourquoi ne marche pas? Pourquoi cette interprétation ne peut pas être, qui est très importante? Alors, si vous lisez le texte de Daniel, soit dans le chapitre 2 que dans le chapitre 7, le quatrième royaume est le plus puissant. C'est celui qui n'a pas d'adversaire possible. Il écrase, il impose, il est le plus puissant. Ici, c'était un empire partagé, ne pouvait pas être le plus puissant. Mais le texte de Daniel, vous avez une Bible, je prends la mienne, le texte de Daniel, c'est clair. Il dit, d'une façon très claire, quelque chose d'important. Allons le voir. Daniel, chapitre 8, versets 21 et 22. D'autres, ma traduction italienne dit... sans avoir la même puissance, plus faible, ne peut pas être le quatrième rayon qui est le plus fort de tout. Absolument. Dans le chapitre 2, le symbole utilisé pour le quatrième rayon, c'est le fer. Il dit que c'est le fer, en réalité, c'est le métal le plus dur. C'est étrange qu'en Rome, tout était de fer. Et la loi était de fer, les soldats étaient bien pris. Et bien protégé par le fer. C'est le royaume le plus puissant, il est plus puissant du troisième, soit dans le temps, et soit dans la réalité. Rome a commencé l'année 167 ou 169 jusqu'à au siècle 5e, 476. Les autres ont été toujours plus brefs. Premièrement. Deuxièmement, dans cette vision du chapitre 8, Rome, c'est celle qui tue le Messie. Le Messie n'a pas été tué par quatre royaumes qui ont eu la continuation de l'Empire grec. Les interprètes l'appliquent avec un prêtre qui s'appelait Onias le troisième, qui a été tué par les Séléucides. Mais celui-là n'était pas le Messie. Alors, les quatre royaumes sont Babylone, Médopèse, Grèce et Rome, et nous le savons bien. Mais maintenant, Rome a fini, 476, c'était la fin de l'Empire romain. Comment ça se fait que ces quatrième royaumes arrivent jusqu'à la fin? Ils changent de nature. Et même dans les dix cornes que vous voyez là, c'est dix cornes qui continuent la même bête. Les dix cornes ne sont pas quelque chose qui vient de notre origine, c'est toujours les mêmes. Alors, je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais nous pouvons bien entrer dans les détails. Il n'y a aucun catholique ici qui va se scandaliser. L'histoire de Rome impériale continue avec le même titre dans la Rome chrétienne. Il y a un passage très important que l'histoire nous a consigné. Dans l'année 533, l'Empire Justinien, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a étudié droit ici, l'Empire Justinien écrit son code juridique, Corpus Juris Civilis. Et dans la lettre, le chapitre 33 du corps juridique de Justinien, il donne la consigne à l'évêque de Rome. C'est un passage formel, légal. À Rome, il y a un historien italien qui a été le président des historiens italiens pendant longtemps, s'appelait Giorgio Spini. Il dit: à la chute de l'Empire romain, tous échappent. Les militaires, les consuls, les préfets, tous s'échappent. Seulement une autorité reste à sa place, c'est l'évêque chrétien. Et il assume, l'évêque chrétien, tous les titres qu'avait l'empereur. L'empereur était Divus. L'empereur était Max Pontifex et l'empereur, c'était autorité légale, civile. Tous ces titres restent sur l'évêque de Rome. Alors, ça, c'est l'interprétation qui, pour nous, est l'interprétation la plus logique et la plus... Alors, je vais vous faire voir un peu, parce que jusqu'à Rome, comme empire romain, il y en a plusieurs qui sont d'accord. Aujourd'hui, parmi les évangéliques, bien sûr, au temps de Luther, il y avait même Luther, Calvin, Zwingli, comment s'appelle le fondateur des méthodistes, John Wesley, ils ont vu tous dans la continuation de l'Empire romain l'Église chrétienne. Ils n'ont pas critiqué l'Église catholique, ils ont critiqué le christianisme en général, parce que le christianisme a été la continuation. Bien sûr, l'évêque de Rome a eu le rôle principal. Mais les chrétiens, après, arrivent dans un problème quand on doit mettre qui sont les dix cornes et qui est la petite corne. Et il y a une interprétation assez bizarre pour laquelle ils utilisent les 70 semaines et ils font un trou entre la chute de Rome et il y a les sauts. Et même dans la prophétie, maintenant on n'est plus dans les rouleaux de la mer morte, on est dans un autre thème, même la prophétie des 70 semaines, vous connaissez cette prophétie, il sépare les 69 semaines de la dernière. La dernière, il la met à la fin de l'histoire, avec un décalage de 2000 ans presque. Pour nous, les quatre royaumes qui vont jusqu'à la fin de l'histoire sont les quatre dont nous n'avons pas les textes dans les documents de Qumran. D'ailleurs, Rome était en train d'arriver à ce moment-là. Mais selon les pères de l'Église, Tertullien, Hippolyte de Rome, Jérôme le Grand, même Augustin, qu'il voit dans la chute de Rome l'ouverture de la porte pour ce qui deviendra les successeurs de Rome. Mais Rome n'était pas encore tombé à leur temps.